Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Activité économique paralysée depuis ce vendredi matin à Bunia-Nituri et c'est pour deux jours. Ces journées ville morte décrétées par l'Union des associations culturelles pour le développement de l'Ituri UNADI et c'est pour protester contre la continuité des tueries des civils dans la région en cette période de l'état de siège. Projet du budget 2022 déclaré recevable à l'Assemblée nationale, c'était hier jeudi, après la réplique du Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé. Ce projet de loi a été envoyé à la Commission économique et financière pour approfondissement et toilettage. Enfin, notre invité dans cette édition du journal est Mme Bintou Keïta, représentante du secrétaire général des Nations Unies en RDC. Elle a conduit une délégation de la mission à Kalemi dans la province du Tanganyika en visite de travail sur le retrait de la MONUSCO du Tanganyika. Voilà tout pour le sommet. Mesdames et messieurs, bonjour. En Ituri, toutes les activités économiques sont paralysées depuis ce vendredi matin au centre-ville de Bunia. C'est à la suite des deux journées de ville morte décrétées par l'Union des associations culturelles pour le développement de l'Ituri UNADI. Cette structure qui regroupe toutes les communautés de l'Ituri s'insurge contre les tueries des civils par des groupes armés qui se poursuivent en cette période de l'état de siège. Marcel Kizabiamungu a sillonné la ville de Bunia. Il nous décrit la situation dans ce reportage.
Depuis tôt ce vendredi matin, boutiques et magasins n'ont pas ouvert leurs portes le long du boulevard de la Libération et sur l'avenue Ituri où les activités commerciales sont intenses. Les institutions bancaires, les marchés et les stations-service n'ont pas également fonctionné. La circulation sur la route principale a sensiblement diminué. Seules quelques motos, taxis sont visibles, contrairement à un jour normal. Pour les organisateurs, la population a répondu à leur appel pour dénoncer les tueries et massacre des civils en territoire de Djougou et Irumou en cette période exceptionnelle. Janvier Bin Ekwale, président de l'INADI, interpelle les autorités de l'état de siège devant leurs responsabilités.
Seul pendant l'état de siège, nous venons de perdre plus de 1000 morts. Trop c'est trop et on en a marre aux autorités de l'état de siège qu'ils prennent leurs responsabilités.
Déjà aux petites heures de la soirée de jeudi, par précaution, des responsables des agents roulants s'est bousculés devant les stations-service afin de s'approvisionner en carburant. Dans les marchés également, certaines familles faisaient des provisions de nourriture. Il faut signaler que si certaines écoles ont fonctionné normalement, d'autres par contre ont carrément renvoyé les enfants à la maison. Depuis les centres-villes de Bunia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Autre nouvelle, 39 ménages de déplacés vivent difficilement dans une cité à Beni. Ces derniers sont ceux ayant fui les atrocités, les uns dans les territoires de l'Irumou et les autres dans les territoires de Beni. Ils plaident pour une aide de tout genre pour leur survie. Pendant ces temps, ils se préparent en ville de Beni une réunion d'évaluation de la situation des déplacés. Gulen Kassassia.
Ces déplacés vivants, aussi se trouvant dans une concession de la 8e CEPAC en ville de Beni, disent être confrontés à plusieurs défis, comme expliquent certains d'entre eux. Le problème majeur reste le manque de nourriture et le manque de frais pour les soins, pas moyen de scolariser les enfants. Je n'ai pas d'occupation. Mes enfants ont failli mourir de faim, mais si je trouve d'occupation, je suis prête pour travailler. Nous souffrons beaucoup. Voilà cette poussière que nous donnons aux enfants. Je les pile et demande les tamis chez les voisins. C'est après que je peux en faire une pâte à offrir aux enfants. Je les ramasse au moulin. Ils plaident pour que le gouvernement les vienne en aide. Nous vivons dans les noirs ici. Nous n'avons aucun dispositif sanitaire pour les lavages de mains. Et même les toilettes ne sont plus utilisables. On ne sait que faire. Des enfants ayant abandonné l'école passent des journées entières en vagabondant. Une d'eux, 10 ans révolue, s'exprime. J'étais en troisième année. L'on nous a réfugiés dans les écoles ici localement pour motif qu'on n'a pas besoin de nouveau. Je regrette de rater les études, mais aussi la faim. Que les autorités congolaises nous aident en nous offrant la nourriture et les frais scolaires. Entre-temps, les maires de Beni préparent une rencontre avec tous les acteurs humanitaires pour ce vendredi. Objectif, évaluer la situation des déplacés de la ville. Beni, Kulen Kassassia, Radio Kapi.
On reste dans la région. Lancement officiel ce jeudi 18 novembre à Goma, dans le Nord Kivu, du plan stratégique quinquennal 2022-2026 de CAIR International en RDC. Il s'agit d'un plan axé sur la lutte contre la pauvreté et les problèmes qui gangrènent la situation de la population dans les 5 provinces ciblées. Ce sont notamment le Maniema, l'Ituri, les Kasaï et les deux Kivu. Pour Madame Aline Ouedraogo, directrice pays de CAIR International, l'enveloppe globale est de plus de 87 millions de dollars américains pour les 5 ans. Ce projet va toucher plusieurs domaines, notamment le social, la santé, l'éducation, le secteur économique, entre autres les activités génératrices de revenus pour les femmes vulnérables et les jeunes. Au regard de l'importance de ce plan, le vice-gouverneur qui a dirigé la cérémonie du lancement a aussi formulé quelques recommandations. Le général Romain Ekoukali Popo a au micro de Mathieu Ilunga Chamboui.
À CAIR International, de respecter la programmation de sa stratégie 2022-2026 et la mise en œuvre de cette nouvelle stratégie. Car il y a des partenaires qui annoncent, ils éructent un certain nombre de chiffres, mais à la fin, on n'atteint ni jamais ces chiffres, ni non plus le timing édicté. En termes de recommandations vis-à-vis de celles et ceux vers lesquels la stratégie de CAIR International est lancée, il faut avoir des liens très très forts avec CAIR International pour que cette vision nouvelle, que nous puissions garder une ligne correcte dans le pipeline, pour qu'à la fin, que nous puissions tout réaliser. Et à l'État, nous, le gouvernorat de province, nous allons tout faire pour encadrer CAIR International ainsi que les acteurs sur terrain pour arriver aux problèmes spécifiques de la province du Nord Kivu. Car par an, nous aurons donc à 3 millions de dollars et nous voudrions réellement coller ça aux problèmes que nous avons, notamment les femmes délaissées, des familles monoparentales.
Nous l'avons dit au sommaire, le projet du budget 2022 est déclaré recevable à l'Assemblée nationale. Au cours de la réplique du Premier ministre, les préoccupations soulevées par les élus nationaux lors de la présentation du projet de loi de finances 2022 ont été rencontrées au cours de la plénière de ce jeudi par le Premier ministre. Le projet de loi a été envoyé à la Commission économique et financière pour approfondissement et toilettage. Dans sa réponse, Jean-Michel Samaloukonde a regroupé les préoccupations soulevées par les députés en 7 thématiques phares, tout en insistant sur la détermination du gouvernement à financer les prochaines élections. Jean-Michel Samaloukonde est au micro de Michel Kifindangoy.
Pour ce qui est des préoccupations liées au processus électoral, je voudrais préciser que les délais constitutionnels seront respectés. Et à ce propos, votre gouvernement a déjà mis de côté, dans le cadre des économies de cette année, 200 milliards de francs congolais sur des prévisions initiales de 90 milliards pour l'exercice 2021. Et pour l'exercice 2022, nous avons aligné 500 milliards pour nous permettre de couvrir les charges liées au processus électoral. Nous attendons du bureau qui a été récemment installé un plan concret qui nous permettra de démarrer les premières opérations électorales. Dans le même esprit, votre gouvernement a fait de la question du recensement une question cruciale au regard de l'importance qu'elle revêt. C'est ainsi que nous travaillons à la mutualisation des services pour nous permettre de démarrer les opérations de recensement. Je tiens à préciser que l'organisation des élections n'est en rien tenue au résultat du recensement.
Autre nouvelle, mise en place hier jeudi du cadre de dialogue entre le Sénat et les présidents des assemblées provinciales. L'instauration de cette structure a été décidée à l'issue du premier forum de cadre de concertation entre la Chambre haute du Parlement et les organes délibérants des provinces de la République démocratique du Congo qui s'est tenu ici à Kinshasa. Selon la résolution votée à l'unanimité par la plénière, ce cadre aura entre autres mission d'œuvrer en faveur d'une collaboration efficace et apaisée entre les institutions provinciales. Je vous propose de suivre la présidente de l'Assemblée provinciale du Haut-Lomami qui revient sur d'autres missions dévolues au cadre du dialogue. Madame Isabelle Yumba Kalengai est au micro de Michel Kifindangoy.
Le cadre de dialogue et de concertation, notamment pour mission de offrir un espace et une opportunité d'échange aux assemblées provinciales et promouvoir la coopération interprovinciale. Attirer l'attention du Sénat sur les initiatives constitutionnelles et législatives ainsi que les actes réglementaires touchant aux compétences et intérêts de province. Proposer des initiatives relevant de la fonction de contrôle du Sénat dans la défense des intérêts de province. les cadres de dialogue et de concertation se réunissent en session annuelle ou biannuelle.
Et puis, au Sud Kivu, coup d'envoi ce vendredi de la deuxième campagne de vaccination contre la COVID-19 à Bukavu. L'activité a eu lieu au centre de santé de la Botte, dans la commune d'Ibanda. C'était en présence du vice-gouverneur de province et du ministre provincial de la Santé qui se sont fait vacciner à l'occasion. Cette deuxième phase de vaccination est particulière. En effet, la population a désormais le choix entre plusieurs types de vaccins à part AstraZeneca. Écoutez Marc Malago Kaché-Kéré, vice-gouverneur du Sud Kivu, au micro de Cynthia Bachizi.
Nul ne doute des désastres que Covid cause sur la planète. Donc, parmi les solutions, il y a aussi la vaccination. En tant qu'autorité provinciale, nous sommes décidés de montrer l'exemple. Il est vrai que nous avons commencé, c'est depuis mai, je crois, qu'on avait commencé, mais suite à des problèmes techniques, on avait stoppé. Mais pour être plus direct, nous voulons dire à la population du Sud Kivu, en particulier de la RDC, d'aller se faire vacciner. C'est l'unique solution actuelle qui peut aider à endiguer cette maladie-là. Ce n'est pas à dire parce que moi j'ai reçu Johnson Johnson que tout le monde doit le faire. J'ai vu des grands prendre Pfizer, il y a plusieurs vaccins, donc c'est un choix personnel. Mais les vaccins qui sont sur terrain sont efficaces. Donc le nom du vaccin, ce n'est pas vraiment l'essentiel, mais c'est le vaccin en soi qui aide à sauver les vies. Nous, nous sommes autorités, nous sommes en contact avec des milliers de personnes chaque jour. Donc je me sens que là, au moins, je ne suis plus un danger pour d'autres personnes. Et je vais demander à d'autres Congolais qui veulent protéger d'autres Congolais de faire le même exercice, de se faire vacciner.
Restons dans la province du Sud Kivu. Célébration hier de la Journée mondiale de l'enfance à Uvira sous le thème « Un avenir meilleur pour chaque enfant ». L'activité a été organisée au camp des casquets bleus pakistanais de la MONUSCO en présence d'une trentaine d'élèves et enseignants représentant 26 écoles de la place. L'objectif, selon la section des affaires civiles de la MONUSCO, était de renforcer la confiance des civils à la suite de la montée du sentiment anti-MONUSCO, une situation en partie causée par les violences actuelles dans les moyens et hauts plateaux. Fiston Goma.
Au cours des discussions, le représentant de la branche CIMIC, coordination civilo-militaire du 3e bâton pakistanais de la MONUSCO, a sensibilisé les participants sur les droits des enfants, tels que les droits à la vie, à l'éducation, à la santé, à la protection, à la non-discrimination, etc. Dans les moyens et hauts plateaux, beaucoup d'enfants sont privés de ces droits parce qu'ils vivent dans un contexte de conflits armés. Certaines écoles ne fonctionnent pas, beaucoup d'enfants se sont déplacés avec leurs parents, craignant pour leur sécurité. Les casques bleus de la MONUSCO ont partagé leur douleur avec les enfants et leurs enseignants sur la menace imminente d'enlèvement dans la ville d'Uvira et ses environs avant de révéler certains mécanismes pour atténuer ces phénomènes. Un numéro de téléphone a été également partagé avec les enseignants pour les alertes précoces en cas de besoin. Signalons que la Journée mondiale de l'enfance a été créée en 1954 et est célébrée chaque année, le 20 novembre, afin de promouvoir le respect et les droits des enfants. Depuis 1990, cette journée mondiale marque également l'anniversaire de l'adoption, de la déclaration et de la convention relative aux droits de l'enfant. D'Ouvira Fiston Mayaba, la radio Okapi.
On revient ici à Kinshasa. Deux Chinois, dont Ye Jing Park et sa gérante, condamnés à 10 ans de prison pour prosélytisme et trafic de personnes à des fins sexuelles. Oui, condamnés pour séjour irrégulier à une amende de 1 000 $ chacun, 22 autres acquittés et un Congolais, Bernard Boula, chef de bureau au ministère des Affaires étrangères, qui leur délivrait des visas de courtoisie sans en avoir qualité, lui a été condamné également à 10 ans de prison. C'est le verdict rendu hier tard dans la soirée par le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe dans une procédure de flagrance. On écoute un extrait de ce verdict avec le juge président Alou Tatabou au micro de Jeff Ngoy.
Le tribunal reçoit, mais dit non fondé, les déclinatoires des compétences ainsi que la fin de non-recevoir tirée de la violation de la Convention de Vienne de 1961, en conséquence, les rejette. Dit établi, en fait et en droit, l'infraction de prosélytisme mise à charge des prévenus Ye Ying Peng et Lili Bin. En conséquence, les condamne à 3 ans de statut pénal principal. Dit également établi, en fait comme en droit, l'infraction de trafic des personnes à des fins sexuelles, mise à leur charge, et les condamne chacun à 10 ans de statut pénal principal. Déclare que ces infractions sont en concours idéal. En conséquence, prononce la peine la plus forte, à savoir 10 ans de statut pénal principal.
Actualité internationale.
Au Burkina Faso, la classe politique réagit face aux dysfonctionnements constatés au sein des forces armées en lutte contre le terrorisme. Majorité comme opposition demandent au chef de l'État de mesures fortes pour instaurer la sérénité au sein des troupes.
L'invité.
Notre invité dans cette édition du journal, c'est Madame Bintou Keïta, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC. Elle a conduit une délégation de la mission Akalemi de la province du Tanganyika en visite de travail sur le retrait de la MONUSCO du Tanganyika. Elle s'entretient avec François Xavier Mibé. Suivez.
Madame la représentante spéciale, bonjour.
Bonjour.
Vous venez de clôturer aujourd'hui une mission qui vous a conduit au niveau du Tanganyika. Le bilan de cette visite de travail, madame?
Quand je pense au bilan de cette mission, je pense à un cri du gouverneur ad interim qui n'a cessé de répéter « Tanganyika, c'est une jeune province. Il y a du mieux en termes de sécurité, mais ce n'est pas encore stable. » Tanganyika, c'est des hommes et des femmes très déterminés à ce que la paix puisse être davantage consolidée. Mais en même temps, il y avait une forme de demande de quelqu'un, quelque part, a décidé que la MONUSCO allait partir du Tanganyika l'année prochaine, comme un sentiment, entre guillemets, je dirais, d'abandon, ou en tout cas de sevrage. Et ce sentiment montrer qu'il y a encore des aspects très particuliers, notamment sur la sécurité, qu'il faut, avec l'armée, avec la police congolaise, avec les autorités provinciales, et avec aussi les chefs de pays, s'assurer qu'on mutualise les efforts pour que les hommes, les femmes, les jeunes, les enfants puisse se dire « il fait bon vivre au Tanganyika ». Mais le premier besoin essentiel que j'ai entendu des personnes déplacées, de la société civile, des jeunes, c'est sécurité, priorité numéro 1. Sécurité, priorité numéro 2. Sécurité, priorité numéro 3. Et ensuite, c'est nous avons une terre Tanganyika qui a 6 territoires. Et il y a plein de potentiel, et pour l'instant, c'est encore difficile de transformer ce potentiel en termes d'opportunités d'emploi. Et ça, c'est une demande importante, particulièrement des jeunes et particulièrement des femmes.
Non pas pour chercher à vous interrompre, madame. Des problèmes restent préoccupants du côté des déplacés, par exemple. Le nombre est en train de croître dans les secteurs de Kabeyamaï. Quel va être l'apport de la communauté internationale et qu'est-ce qu'on peut bien attendre des autorités provinciales et territoriales?
Je crois la première des choses, c'est que même quand on pense qu'on n'a plus rien, on a toujours quelque chose, on a sa volonté, on a sa dignité et on a sa capacité de contribuer avec des idées, pas nécessairement toujours avec de l'argent. Et je pense que beaucoup est déjà fait par la famille des Nations Unies. Mais vu le nombre grandissant de personnes déplacées, là on parle de milliers de personnes déplacées. Nous avons même été sous une tente où il y avait, je crois, plus que 200, 300 femmes, enfants. Et ça, ce sont des personnes qui sont arrivées entre le 7 novembre et maintenant. Et de ce que je comprends, ça continue d'arriver. Les besoins sont très grands et personne tout seul, même pas l'autorité territoriale ou les chefs coutumiers ou même les agences des Nations Unies tout seul et la MONUSCO, pourra amplifier ce qui doit être fait pour que ces hommes, ces femmes, ces jeunes, ces enfants, ces bébés se sentent bien. Ça va prendre beaucoup d'efforts. Et peut-être moi, si j'ai un souhait, c'est que j'aimerais bien que les autorités à Kinshasa viennent au contact de ces populations qui sont en détresse et qui ont besoin d'être rassurées qu'on se préoccupe d'eux. Même si on n'a pas grand-chose, juste le fait de les écouter, de venir à leur contact, je pense que c'est déjà une partie du chemin.
Cela intervient au moment où la MONUSCO entrevoit le processus de désengagement de la province du Tanganyika. Est-ce comprendre que les choses vont devoir rester en laissant un goût de l'inachevé?
Alors c'est ça ce que j'appelais ne pas jouer au Cassandre. Tous les problèmes ne seront pas réglés en quelques mois. Par contre, le retrait de la MONUSCO, c'est une partie de la famille des Nations Unies.
Les agences fonds et programmes, ils sont là, et ils vont rester, et ils vont continuer à accompagner la province de Tanganyika. Et aussi, de dire qu'il y aura de l'inachevé, c'est comme si on disait, il faut que tous les problèmes soient réglés à 100% avant que la MONUSCO ne puisse se retirer. Et je ne crois pas que c'est la démarche et l'intention que nous devons avoir. Et c'est pour ça que j'ai dit priorité numéro 1, priorité numéro 2, priorité numéro 3, c'est la sécurité. Les mamans et les jeunes nous ont dit, c'est si on a la sécurité, le reste peut venir de surcroît. Et j'ai bien dit, départ, si toutes les conditions sont réunies. Donc il y a des critères bien précis, dont la sécurité, pour la province de Tanganyika.
Madame la représentante spéciale, Bintou Keïta, merci.
Merci.
Toutes nos excuses pour la qualité sonore de cet élément de Madame Bintou Keïta, chef de la MONUSCO, qui s'entretenait avec François-Xavier Mibé. C'est aussi la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis.